Ce que nous voulons, c'est pratiquement inverser la tendance dans les budgets. Actuellement, que se passe-t-il? Un État dit, moi je sais consacrer par exemple $1 million pour soigner les malades du sida dans mon pays. Alors on dit $1 million, on divise par le coût d'un traitement par personne et on dit donc nous savons prendre en charge par exemple 1000 malades. Hein? Avec des prix très bas, on peut dire le contraire. On peut dire combien de malades y a-t-il dans votre pays ? Et avec des prix très bas, établir un budget et en disant, voilà, on sait à ce moment-là soigner beaucoup plus de monde. Parce qu'actuellement, il n'y a que quelques pourcents de malades du sida qui sont traités. Hein, si on compte qu'il y a près de 40 millions de malades du sida dans le monde, dont près de 27 millions en Afrique, actuellement, on compte parfois par milliers de malades traités alors qu'il y en a des millions.
Votre principale difficulté, justement, dans votre action, dans votre organisation, se situe plus au niveau, justement, de cette sensibilisation en amont, c'est-à-dire avant la diffusion ou sur le terrain?
La principale difficulté est une difficulté légale, de convaincre d'abord les associations internationales qu'un brevet qui régule le droit à la propriété intellectuelle est une chose qui est bonne, mais qu'un brevet, par rapport à la vie de quelqu'un, n'a pas de valeur. Même si vous donnez un brevet le droit à quelqu'un de toucher un profit parce qu'il a inventé quelque chose, si à cause de ce brevet une personne meurt, ou des centaines, ou des milliers, ou des millions de personnes meurent, à ce moment-là, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est un brevet? À ce moment-là, c'est une arme, ce n'est plus un système scientifique de développement. Donc là, nous devons nous battre, et heureusement, dans ce système, l'Église, avec les représentants qu'elle a dans les assemblées internationales de l'ONU, de l'OMS, de l'UNESCO, etc., essaie toujours d'infuser un petit peu le souci qu'elle a des pauvres et des personnes et des malades qui doivent être traités. Et alors, nous, en tant qu'expert, si vous voulez, de la Fédération internationale des pharmaciens catholiques, nous essayons de lui donner des armes, je vais dire, basées sur notre expérience de connaissance des lois pharmaceutiques, etc., pour le traiter. Ce qu'on a fait à Doha, entre autres. Et puis après, l'autre problème est au bout de la chaîne. Comment donner les médicaments aux plus pauvres, qui sont en général dans les zones suburbaines ou dans les villages, etc. Et là, le meilleur réseau au monde actuellement, c'est le réseau de l'Église catholique qui est infusé jusque dans les villages. Hein? Alors que si vous regardez les pharmacies et les hôpitaux, ce sont dans les capitales, dans les chefs-lieux, etc., hein, où des gens doivent parfois marcher plusieurs jours pour y aller. Et s'ils sont malades, ils n'ont même pas la force d'accéder au traitement. Donc l'Église doit aller là. Et quand je rencontre des prêtres ou des évêques en Afrique principalement, ils me disent, essayez de nous trouver un système pour que ces gens qui sont dans nos paroisses, etc., puissent être traités. Alors moi je leur ai dit, eh bien le système c'est vous. On va essayer de vous mettre en réseau pour que vous puissiez accéder et distribuer les médicaments. Donc on va devoir former peut-être quelques prêtres, quelques laïcs, etc., à manipuler, si vous voulez, ces systèmes. Donc vous voyez, il y a un suivi à faire par après, et ça, c'est ce qu'on fait. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être la chose qui est la plus difficile, c'est de faire le suivi.